Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 31 janvier 2008, l'écrivain Max Gallo était reçu sous la coupole par ses confrères de l'Académie française. Élu quelques mois auparavant, en mai 2007, au fauteuil précédemment occupé par Jean-François Revel, il prononça selon l'usage l'éloge de son prédécesseur. En réponse, son confrère Alain Decaux a prononcé un discours, vibrant hommage à la tolérance, la chaleur et la vivacité d'esprit du nouvel académicien. Alain Decaux, en historien complice, nous a offert le récit du parcours si fécond de Max Gallo, ponctué d'innombrables livres. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance publique introduite par Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, en présence du président de la République, Nicolas Sarkozy. Retrouvons sous la coupole Max Gallo de l'Académie française.
Monsieur le président de la République, mesdames et messieurs de l'Académie, j'ai beaucoup écrit et souvent pris la parole. Trop, ont dit certains, sans que cela n'interrompe le flux de mots qui m'a emporté depuis l'adolescence. Or, j'ai craint que ce flux, dès que vous m'avez élu au 24e fauteuil de votre Académie, ne fût tari. Je savais ce que je voulais vous dire, mais, avait déjà noté Jean-François Revel, mon prédécesseur à ce fauteuil dans son discours de réception le 11 juin 1998, je cite, l'homme ému ne dispose pas d'une infinité de façons d'exprimer sa gratitude quand il entre dans votre Académie. Quels sont donc les mots justes, ceux qui me viennent de loin? Car vous avez élu, mesdames et messieurs de l'Académie, un fils d'immigré italien, originaire de la Gaule cisalpine, le Piémont et l'Émilie, et longtemps avant moi, d'autres choisis par vous arrivaient de terres bien plus étrangères. Car vous avez élu le fils d'un ouvrier électricien, et mon premier diplôme est un certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien ajusteur. Vous affirmez ainsi une nouvelle fois que votre conception de l'unité et de l'identité nationale française, dont votre compagnie reste depuis Richelieu l'une des expressions majeures, est ouverte. En m'élisant, et je mesure avec humilité et gravité l'honneur que vous m'accordez, vous m'invitez à ce que je crois être une communion solennelle avec la France. Cependant, mesdames et messieurs de l'Académie, si me présentant devant vous mon trouble est profond et sincère, c'est parce que je succède à Jean-François Revel. En effet, comme vous, je porte le deuil de cet homme que j'aimais. Tout au long de ma vie, Jean-François Revel m'a tendu la main. Lorsqu'au mois de juin 1968, je lui ai envoyé par la poste le manuscrit d'un essai sur les événements de mai que j'avais vécu comme professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Nice, il a répondu moins d'une semaine après à l'anonyme que j'étais et a publié ce petit texte dans la collection Contestation qu'il venait de créer. J'ai mesuré dès cette première rencontre que le goût des idées, le respect de celles des autres, la volonté de les promouvoir, si elles lui paraissaient utiles au débat, lui importaient autant que le succès des siennes, parce qu'il plaçait au-dessus de tout la liberté d'expression. Jean-François Revel n'a cessé dès lors de m'ouvrir des portes. Il était de ses amis qui vous aident sans que vous ayez besoin de faire appel à eux. Avant même que je ne le sollicite, Revel comprenait le souhait que je n'osais exprimer. Il a ainsi changé, je pèse mes mots, le cours de ma vie. Et lui succéder aujourd'hui, m'étreint, vous le comprendrez. En apprenant que je pouvais être candidat à son fauteuil, je dois avouer que j'y ai vu comme un signe de sa part, une invitation à tenter ce qui me paraissait impossible. Je sais qu'il rirait aux éclats de ses propos « irrationnels », entre guillemets, mais je me sens tenu de vous faire cet aveu. Au vrai, je lui dois bien plus que l'aide spontanée, fraternelle et généreuse qu'il m'a apportée et sans laquelle celui qu'aucun héritage n'a initié aux rituels sociaux s'égare et risque à chaque pas de renoncer ou de dépérir, voire de mourir étouffé par le désespoir, la colère et même la rage. En fait, au-delà de son attention amicale, ses livres, ses articles et surtout son indépendance d'esprit, son courage, sa clairvoyance m'ont guidé. J'ai eu la sensation, en le côtoyant, d'être à la fois devant un homme bon et rigoureux, ouvert à mes analyses, mais intransigeant dès lors qu'il s'agissait de la vérité. Il m'a évité la cécité et la bonne conscience que suscitent les origines modestes lorsque, à tort ou à raison, on se vit comme un humilié et un offensé. Ainsi, quelques exemples, durant toute mon enfance, j'avais écouté avec ravissement ma grand-mère Italina et ma mère Mafalda raconter dans leur langue d'Émilie leur Italie perdue en répétant « à Marcord, je me souviens ». Par mon père Jay, j'étais le petit-fils d'un picapeira casseur de pierre piémontais. J'étais donc partagé, victime de cette schizophrénie des immigrés, écartelé entre les images d'un pays qu'on n'a pas connu mais qui est la terre des souvenirs familiaux, et les leçons de l'instituteur républicain et patriote. On chante avec lui « Ne laisserons pas germaniser la plaine », mais c'est du côté de Turin et de Parme que votre mémoire familiale vagabonde. Revel m'a aidé à sortir de cette dichotomie. Il avait publié en 1958 un essai pour l'Italie. Je l'ai lu. L'Italie, c'était donc cela, une terre, un peuple, une histoire à aimer, mais aussi, comme en toute nation, une étouffante accumulation de préjugés. Derrière le décor des amarcordes nostalgiques, grâce à Jean-François Revel, j'ai découvert la réalité. De même, alors que mon père autodidacte, combattant de la Grande Guerre, me hissait sur ses épaules en 1936, pour que je voie mieux les lendemains qui chantent, Jean-François Revel, tout au long de son œuvre, avec sa bienveillante attention et l'exemple de lucidité intrépide qu'il donnait, m'a conduit à comprendre ce siècle et non plus seulement à me laisser bercer par les émotions et la fraternité des réunions où l'on chante en chœur l'espérance et la lutte finale. Le grand malheur du XXe siècle, écrit Jean-François Revel, ce sera d'avoir été celui où l'idéal de la liberté aura été mis au service de la tyrannie, l'idéal de l'égalité au service des privilèges, toutes les forces sociales comprises à l'origine sous le vocable de gauche, embrigadées au service de l'appauvrissement et de l'asservissement. Cette immense imposture a falsifié tout le siècle, en partie par la faute de quelques-uns de ses plus grands intellectuels. Ainsi, c'est avec Jean-François Revel que j'ai depuis 40 ans dialogué. Il n'imposait pas son point de vue, mais il était comme ces joueurs d'échecs, les grands maîtres, devant qui l'on se sent désarmé, que l'on veut imiter, de qui l'on veut apprendre et qu'on ne peut contester qu'en quittant le jeu trop exigeant et en reprenant les parties de belote si rassurantes. Mais peu à peu, d'hésitation en errement, de livre en livre, de chroniques en éditoriaux, j'ai abandonné les jeux de cartes. J'ai écrit comme si Jean-François Revel avait été penché sur mon épaule, compréhensif et impitoyable, approbateur ou déçu, souvent accablé, mais toujours amical et affectueux. Il l'a été pour moi et pour tous ceux qui restaient enfoncés ou retombés dans leurs erreurs, ainsi Louis Althusser. Mais il n'a jamais dérogé à cette règle qu'il avait faite sienne. J'ai de l'amitié pour Platon, mais plus encore pour la vérité. J'ai donc partagé le jugement qu'il porte sur le XXe siècle qui, dit-il, je cite, « a surpassé tous les autres dans l'art et la technique d'enfermer les hommes et de les exterminer ». J'ai rejeté avec lui et expérimentalement, en étudiant telle ou telle période de notre passé, ces lois de l'histoire qui ne sont que le masque du renoncement à la liberté créatrice de l'homme. L'histoire est un théorème indémontrable, écrit Revel dans Le voleur dans la maison vide. Elle est l'enfant de notre seule pensée et de notre besoin d'interrogation, d'explication, de synthèse. Comment pourrions-nous éprouver, poursuit-il, ce besoin si l'histoire, qu'elle soit collective ou individuelle, ne pouvait pas à tout instant devenir autre qu'elle n'est. L'histoire ne fixe aucun rendez-vous, elle ne pose que des lapins. Seul l'homme peut se fixer des rendez-vous à lui-même et seul il a le pouvoir de s'y rendre. Revel place donc l'homme au centre du jeu, c'est-à-dire face à ses responsabilités individuelles. C'est pour les fuir qu'on prétend que des mécanismes incontrôlables, économiques, sociaux ou politiques, ont le pouvoir de déterminer totalement notre destin. Nous sommes libres, nous sommes comptables de notre vie, notre volonté est le premier ressort du monde. Instruit par Jean-François Revel, la seule loi de l'histoire que je reconnaisse aujourd'hui est celle de la surprise qui renvoie à notre indestructible liberté. On comprendra, mesdames et messieurs de l'Académie, que je ne me livre pas ici en prononçant l'éloge de Jean-François Revel à un exercice convenu. Comment d'ailleurs dresser le portrait académique d'un homme philosophe, éditeur, pamphlétaire, éditorialiste, mémorialiste, écrivain de haute lignée, qui caresse, dévore, boit la vie. Qui, jeune lycéen, lecteur précoce des livres et des corps, rédige ses dissertations le jeudi après-midi dans le salon-bar d'un lupanar de Marseille, sa ville natale. Qui établit avec l'autre, quel que soit son statut social, ce rapport d'égalité, de liberté, qui est la vraie forme du respect d'autrui. Et qu'hommage soit ici rendu à ses épouses, à ses enfants, que la personnalité de Jean-François Revel n'a jamais empêché d'être même des personnes libres dans leur vie. C'est son fils Mathieu qui, après des études de biologie, devient moine bouddhiste. Il dialogue avec son père, le philosophe athée, et on a le sentiment que Jean-François Revel s'interroge au plus profond de lui sur la signification de la foi, de la transcendance. C'est Claude Sarraute qui, fidèle à la volonté de Jean-François Revel de prolonger par-delà la mort la rencontre avec les autres, sans préalable, vient de léguer toutes les archives de son époux au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, ces archives, ces matériaux d'une pensée sont des semences nécessaires. Car ce que Jean-François Revel transmet, inocule à ceux qui l'ont approché, lu, c'est le désir de liberté. Et sa vie l'illustre. Il constate, évoquant les croyances de ses enfants, et l'on devine son étonnement malicieux qu'un rire doit conclure comme s'il s'agissait d'une farce ou d'une blague, je cite, « Moi, l'ancien élève des jésuites, devenu athée, moi, disciple de Voltaire, animé depuis ma 18e année de cet agnosticisme virulent que sait susciter la compagnie de Jésus, je me retrouvais avec une fille orthodoxe grecque, un fils bouddhiste tibétain et un autre fils juif. » Et il ajoute, en vieux jésuite voltairien, comme il se qualifie, je cite, « L'indifférence avait depuis quelques années atténué puis exténué mon anticléricalisme. Le danger, au fond, ce n'est pas le clergé, mais la religion. » Décidément, l'éloge académique et consensuel est impossible à propos de Jean-François Revel. La vie est là, avec lui, imprévisible, entre drames, paradoxes et facéties. Non seulement dans les joutes intellectuelles, dans les combats politiques, dans le courage du polémiste, dans la rigueur du penseur, le travail solitaire de l'écrivain et le retour sur soi du mémorialiste, mais aussi, voilà l'inattendu, sur l'hippodrome de Longchamp. Car Revel aime parier, mais il n'est pas qu'un simple joueur. « Je suis de ceux, dit-il, qu'un trotteur attelé à un sulky et multipliant les battues en changeant de vitesse transporte par le rêve au flanc des vases grecs. » On retrouve toujours à l'œuvre chez lui cette dialectique entre la jouissance, le plaisir, le jeu, faut-il oser nommer la chair, et le savoir, la culture, faut-il dire l'esprit. Jean-François Revel me semble avoir retrouvé cette unité perdue, un instant réalisé au cours de l'histoire humaine dans la sagesse de certains philosophes grecs. Jean-François Revel est leur héritier. Il est un homme de la Méditerranée, de Marseille, la cité phocéenne, mais aussi de l'Italie et de l'Espagne. Ainsi, l'italianité, dit-il, me colla sans cesse davantage au cœur de l'intellect, comme l'hispanité d'ailleurs, celle-ci sous sa double incarnation européenne et latino-américaine. On ne s'étonnera pas, avec de telles affinités, de l'union entre le festin et la parole, la chair et l'esprit, qu'est sa vie. Il magnifie cette osmose dans son histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l'Antiquité à nos jours, qu'il l'intitule précisément « Un festin en parole ». La sublimation par le langage, dit-il, est un facteur constitutif de la fête. Revel prolonge Bria Savarin, selon qui l'homme d'esprit seul sait manger. Revel dit que l'homme de culture seul sait boire. Le vin, écrit Revel, est associé à l'amour et au manque d'amour. Il accompagne la joie et la tristesse, le succès et l'échec. Il préside à l'amitié. Il imprègne profondément la culture de l'esprit, le négoce, la guerre et la paix, le repos du travailleur. Ne plus boire de vin dans certaines civilisations, c'est quasiment devoir renoncer à penser. Et les implications sociales, sentimentales et morales du vin font qu'il crée un réseau d'habitudes débordant largement le besoin d'alcool proprement dit. Jean-François Revel fut avec panache de cette civilisation-là et il a pu conclure que, je cite, « Depuis 3000 ans, l'Europe méditerranéenne est bien moins une aire géographique plantée de vignes qu'un territoire suspendu à un vignoble. Il y a un esprit du vin et chaque jour Revel fut l'homme d'un festin en parole où il le célébra en même temps que l'amitié. » Nombreux ici furent ses convives et certains parmi vous, mesdames et messieurs de l'Académie, ont fait sa connaissance il y a plus d'un demi-siècle. Ainsi, quand on parle de Jean-François Revel, c'est un portrait avec groupe qu'il faut peindre. Je ne peux nommer tous ses commensaux. Je choisirai quelques-uns de ceux qui n'ont jamais siégé sous la coupole, André Breton et Louis Brunel, Mario Vargallosa et Octavio Paz, Simon Less et Branko Lazic, Louis Althusser, Olivier Todd et Claude Imbert, Vladimir Bukowski et Indro Montanelli. En fait, c'est tout le siècle intellectuel qu'il faudrait convoquer, de Raymond Aron à André Fermigier, et je ne veux pas choisir parmi les intellectuels américains les plus prestigieux qui furent ses amis et ses correspondants. Les amitiés de Revel en font le descendant direct de ces philosophes des Lumières pour qui n'existaient que des frontières intellectuelles et morales qui les séparaient des dévots et de leurs cabales, mais qui avaient pour première patrie l'humanité tout entière. Comme eux, Jean-François Revel, le polyglotte, était un cosmopolite. Il avait vécu en Algérie, au Mexique, en Italie, aux États-Unis et parcouru la plupart des continents. Il avait donné des dizaines de conférences, publié des centaines d'articles. Ses livres avaient été des succès mondiaux et chaque jour, il nourrissait sa réflexion en dévorant les quotidiens de plusieurs pays. Mais cet homme, ouvert au monde, demeurait enraciné dans sa civilisation, on pourrait presque dire son terroir. Né Ricard à Marseille en 1924, il avait choisi pour pseudonyme en 1957 Revel. C'était là le nom d'un restaurant de la rue de Montpensier, en face des domiciles de Jean Cocteau et d'Emmanuel Berle, le restaurant dont le chef, au dire de Jean-François, cuisinait une daube irréfutable. Énoncé étonnant, il confirmerait s'il en était besoin, mesdames et messieurs de l'Académie, que Jean-François Revel, accueilli sous la coupole par le discours fraternel et magistral de Marc Fumaroli, Revel qui fut heureux d'être parmi vous, membre actif et attentif de votre commission du dictionnaire, restait capable de toutes les audaces, de toutes les transgressions. Il était, comme il aimait à le rappeler, l'homme de toutes les marges et de ce fait indépendant. Au cœur des affrontements intellectuels et politiques de la cité, il chargeait ses adversaires avec la furia francese d'un polémiste incomparable. Lucide, sincère, il n'hésite pas à reconnaître, dans la préface à une réédition de Pour l'Italie, que dans l'âpreté des joutes, il a cédé souvent à la colère et usé de toutes les armes. Mais peut-être, note-t-il, une certaine vérité n'est-elle atteinte que lorsque le tireur est assez peu regardant sur le choix des flèches. Et il précise que les intuitions justes ont parfois pour véhicule des affirmations insensées. Je conteste ce mot de Jean-François Revel, car ce n'est pas de déraison qu'il s'agit, mais bien de la révolte de la raison d'un homme qui refuse d'accepter la règle du mensonge. Quand, dit-il, dans un pays, une civilisation, un individu, un groupe social, une école littéraire ou artistique, un journal, un parti, une religion, s'adonne à des pratiques intellectuelles ou morales, à nos positions complètes ou partielles avec leurs principes ou avec leur réputation, alors la concession dont je suis incapable, c'est de m'abstenir de le constater et c'est d'édulcorer les termes dans lesquels s'exprime mon constat. Les mots, les phrases, les images, les épigrammes surgissent et s'organisent alors dans ma tête, quasiment malgré moi. Ce « malgré moi » de Revel est l'aveu de la force irrépressible de la vérité, de la nécessité de la dire, de la crier et d'agir, parfois au péril de sa vie, tel aura été son engagement dans la résistance. Cela aura supposé aussi la capacité d'affronter pour chacun de ses livres, chacun de ses textes, l'incompréhension et souvent la bassesse et la calomnie. Mais Revel ne peut se taire, c'est ce qu'on appelle le courage spontané et instinctif. Je suis envahi, écrit Revel, impressionné, au sens d'une pellicule photographique, par la manifestation de cette évidence fréquente, sinon constante, l'humanité agit dans la réalité selon une norme qui est le contraire de celle qu'elle affiche et professe dans ses idéaux. En écrivant, je me borne à rapprocher la réalité effective de la réalité fictive et leur contact provoque en général une explosion. Cette exigence intellectuelle est d'abord une morale. Revel ne transige pas avec le mensonge, il le traque, il le montre, il l'attaque. Et s'il parle fort, c'est parce que, dit-il, devant certaines surdités volontaires, il faut travailler à l'explosif. Je dois confesser, mesdames et messieurs de l'Académie, que j'ai été malmené, choqué, renversé par certaines de ces déflagrations. Jean-François Revel avait pris pour cible De Gaulle, Malraux, Claudel, Péguy, Aragon, d'autres moins illustres, mais qui étaient et sont encore de mes amis. Il opérait sans anesthésie, avec l'assurance, la main ferme de celui qui ne se soucie ni des puissants, ni des modes, ni des conventions ou du conformisme. Ses interventions contre des hommes que je révérais, qui m'avaient enthousiasmé, me laissaient pantelant. Mais après le choc opératoire, j'étais contraint de reconnaître qu'il avait porté le fer là où il fallait et crevé des abcès que la complaisance, la prudence, l'aveuglement rassurant, l'admiration béate dissimulaient. Revel obligeait à regarder, à mettre en cause ses certitudes, à rompre avec les idées reçues. Si l'on voulait contester son diagnostic, il fallait trouver des arguments qui ne pouvaient plus être d'autorité, mais fondés sur une analyse et des raisonnements aussi pertinents que les siens. La présence de Jean-François Revel dans le débat obligeait chacun de ses contradicteurs soit à fuir, soit à se murer dans le mensonge ou l'illusion, soit à calomnier, faute de pouvoir répondre. Dès lors, d'une confrontation avec Jean-François Revel, on sortait, si on avait tenté d'être aussi rigoureux que lui, défait le plus souvent, mais de toute façon enrichi par une polémique aussi exigeante. On était contraint de l'écouter, de reconnaître la justesse de ses critiques quand il stigmatisait, par exemple, je cite, « la grandiloquence chevrotante et l'emphase creuse de rhéteurs prétentieux qui ne faisaient qu'encourager notre penchant national pour le verbiage historico-mondial de deuxième main et pour la vulgarisation empoulée aux déclamatoires prétentions métaphysiques et ces patenôtres pâteuses jalonnées de rapprochements vertigineux et d'enjabements racoleurs flattaient malheureusement le public ivre de mots en lui communiquant l'illusion d'accéder aux cimes d'une critique visionnaire et transcendante, dédaigneuse du détail mesquin et de la sordide exactitude. Ici, Élie Faure et André Malraux sont mis en cause, mais avec la même verbe pamphlétaire, il condamnera Aragon, ses poses de cabot mélodramatique, ses vers de mirliton qui font de lui un fabricant de faux meubles anciens. Il n'épargne pas davantage Paul Claudel qui, dit-il, braille, hurle, sa grandiloquence me semble une esthétique creuse, c'est l'antipoésie par excellence. Et lorsque Revel compose une anthologie de la poésie française, il en exclut Aragon aussi bien que Claudel et Peggy. Qu'on ne prétende pas, comme certains, que Revel n'a pas la tête épique. Il cite plusieurs poèmes de Hugo où Gronde écrit l'histoire. On n'avait pas de pain et on allait pieds nus. Et ces femmes qu'on envoie aux lointaines Bastilles, peuple, ce sont tes sœurs, tes mères et tes filles. Ce n'est pas la grandeur que récuse et rejette Revel, c'est sa caricature. Il aime le marbre, pas le stuc. Par ses explosions de colère, il veut briser le silence respectueux, le conformisme et l'unanimité qui suspendent tout jugement. Il choque, il me heurte parfois, souvent même, mais c'est d'abord pour contraindre chacun à prendre position, à sortir du cœur des bien-pensants, des satisfaits. Il invite à s'interroger un esprit libre, quitte ensuite, examen effectué, à se laisser à nouveau emporter par les envolées de Malraux et les vers de Peggy, de Claudel et d'Aragon, et à continuer d'admirer De Gaulle, l'écrivain et le politique, ce que je fais malgré Revel. Mais dans ses diatribes, Jean-François Revel n'exprime pas seulement le besoin de crier ce qu'il ressent de manière d'autant plus déterminée qu'il choisit de heurter pour se faire entendre parce qu'il est seul contre l'opinion commune. Il renoue en fait avec une tradition française, celle de la vigueur voltairienne, indignée, accusatrice, n'épargnant pas les mœurs nationales. J'ai relu le discours au Welsh, puisque c'est par ce sobriquet que Voltaire désigne les Français, les Gaulois narcissiques et prétentieux. Et il m'a semblé entendre Jean-François Revel se moquant de notre vanité. Depuis le temps que la culture française rayonne, je me demande comment l'humanité entière n'est pas morte d'insolation, s'étonne-t-il. Et Voltaire s'interroge, ô premier peuple du monde, quand serez-vous raisonnable ? Et il dresse la liste de nos défauts, de nos réticences à adopter ce que d'autres nations ont accepté avec profit. Voltaire fut accusé d'avoir écrit une odieuse satire contre la nation, et de même certains ont mis en cause Revel, l'iconoclaste qui a osé critiquer le style du général et celui de Malraux. En fait, dans la lignée voltairienne, Revel ne critique les Welsh que par amour de cette France pour laquelle il a combattu, pour contraindre la nation à voir ses faiblesses, à en finir avec les complaisances, la fatuité, les iniquités, voire en 1760 comme en 1960, avec l'usage de la torture. Et c'est pourquoi Revel signe, pendant la guerre d'Algérie, le manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission. En patriote intransigeant, il veut la France lucide et irréprochable, aussi bien dans l'ordre politique et judiciaire que dans l'ordre intellectuel. Il est d'autant plus impitoyable que son information, son érudition cosmopolite lui donne ce qu'il appelle un regard multilatéral sur le monde et la France, et qu'il se refuse à l'autocensure, qu'il combat toutes les limitations à la liberté d'expression, ce qui implique aussi une défense de la langue, une manière d'écrire limpide. Pour lui, la clarté, la rigueur, le refus des envolées prétendument poétiques, des obscurités ou des préciosités prétentieusement qualifiées de beau style sont les conditions d'une pensée capable de comprendre et de faire comprendre. Ce que Jean-François démasque chez les faux grands poètes, les historiens de l'art, les politiciens emphatiques, c'est le trucage, le mensonge, dont la forme achevée est l'idéologie, cette imposture érigée en système. Voilà son adversaire principal. Qu'est-ce que l'idéologie ? S'interroge-t-il ici même lors de sa réception, mesdames et messieurs, dans votre académie. C'est une construction a priori, dit-il. Élaboré en amont et au mépris des faits et des droits, c'est le contraire à la fois de la science et de la philosophie, de la religion et de la morale. L'idéologie n'est pas la science pour laquelle elle a voulu se faire passer, ni la morale dont elle a cru détenir les clés et pouvoir s'arroger le monopole, tout en s'acharnant à en détruire la source et la condition, le libre arbitre individuel. L'idéologie n'est pas la religion à laquelle on l'a souvent comparé. Et Revel, qui ne cède jamais à l'apitoiement, ajoute : nous autres, pauvres hommes du XXe siècle, avons subi l'âge de fer des idéologies. Il s'est dressé contre elles dès les années 40. Il a 16 ans quand la nation est brisée par l'étrange défaite qui livre le pays aux nazis. Il vit à Marseille, alors situé en zone libre. Cet élève des jésuites, dont le père accepte et soutient le régime de Vichy, choisit la résistance. D'abord à Lyon, où il prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure, puis à Paris, après y avoir été reçu. Sa résistance n'est pas un drôle de jeu. Il risque chaque jour sa vie, année cruciale où se conjugue en lui, je cite, « la tension due à la charge de travail des examens et concours avec l'anxiété sécrétée en permanence par la tragédie sanglante, par la hantise d'une mort pure et simple de notre civilisation. La défendre, voilà le sens de son engagement. Il a choisi la vérité contre le mensonge, il se bat pour une certaine idée de la France. Ce sont ces années qui vont orienter toute sa vie. Non qu'il utilise sa résistance comme un marchepied pour accéder à une carrière politique, journalistique ou administrative. Son héroïsme ne lui aura servi qu'à obtenir la libération de son père emprisonné à Marseille pour avoir affiché ses sympathies et son engagement collaborationniste. Mais cette période est pour lui celle des premières ruptures, avec le père, avec l'ordre imposé, avec le conformisme. Le choix de la résistance au péril de sa vie est découverte de soi, de ce dont on est capable. C'est la cristallisation définitive de ce que l'enfance et l'adolescence ont apporté de meilleur, l'habitude de se forger seul son jugement par le recours au texte et non aux commentaires. Il s'approvisionne, dit-il, je cite, « à d'autres sources intellectuelles que celles où les jésuites amenaient leurs brebis se désaltérer. Naturellement, il lit les essais de Montaigne. Il confie qu'il acquiert la conviction, je cite, aux alentours de la 12e année, qu'on ne parvient à la culture que par des voies obliques. C'est ainsi qu'on se trempe le caractère, qu'on s'éprouve, qu'on prend confiance en soi. On a été reçu en 1943, dès la première tentative, à l'école normale supérieure. On a mis sa vie en jeu pour sauver une forme de civilisation contre les erreurs et les aveuglements du père. On a survécu et on a vaincu. On se sent indestructible. Mieux, on ne cherche pas hors de soi des modèles, des certitudes, on les puise au fond de son être. Et d'avoir traversé la tragédie, d'avoir été plongé à chaque instant, chaque jour, dans l'inattendu, d'avoir été confronté à l'événement, fait naître le besoin d'échapper aux répétitions, aux hiérarchies, aux prévisibles. Dans ces conditions, on ne peut être d'abord un raisonneur. Je crois être un intuitif, dit Revel. Je vois avant d'induire et de déduire. On croit à la liberté. Chaque homme, affirme Revel, dispose en lui de plusieurs jeux de cartes. Il conduit simultanément plusieurs parties, les unes privées, voire dérisoires, les autres capitales pour son destin ou celui d'une cause, voire pour la fameuse histoire, d'autres enfin jouées par amour d'un art, d'un être ou d'une simple distraction. Écrivant ces lignes, Revel évoque sa vie durant l'hiver 43-44. Elle est, dit-il, une succession de rendez-vous, jour après jour, tantôt dans des cafés qui changeaient naturellement tout le temps, tantôt dans des appartements glacés que nous prêtaient des sympathisants. À chaque carrefour, chaque fois qu'on pousse une porte, on peut rencontrer la mort, mais la vie rebondit, une manière d'exister prend naissance. Je n'ai jamais pu me contraindre à ce que ma vie se réduisît à une seule vie, confie Revel. Je n'ai pas cessé d'être en plusieurs lieux matériels et moraux à la fois. Je l'ai fait, non par calcul ou par duplicité, mais par inclination spontanée à fuir la monotonie. Mais il s'agit de bien plus que d'un simple goût pour ce que Jean-François Revel appelle la caracole. Et c'est encore une fois devant vous, mesdames et messieurs de l'Académie, que, faisant l'éloge de son prédécesseur Étienne Wolff, Revel a dressé son autoportrait. Quel biographe n'est pas l'auteur plus ou moins conscient d'une autobiographie, sa vie rêvée. Revel va ainsi révéler l'essentiel de ce qui s'est dessiné dans les premières années de la vie. C'est à ce moment-là qu'il devient celui qui refuse d'être un simple rouage de la machinerie humaine, mais qui veut au contraire affirmer sa liberté, son originalité. Il écrit « On n'est jamais original que parce qu'on ne peut pas s'empêcher de l'être. L'originalité suppose l'incapacité de penser, dire ou faire autre chose que ce qui semble juste et vrai parce que l'on est incurablement réfractaire au mimétisme, infléchissements et métamorphoses que suggérait une adaptation sans conviction aux circonstances ou aux interlocuteurs. L'originalité repose sur une forme d'ingénuité, même chez une vaste intelligence. Comment un tel jeune homme de 21 ans pourrait-il en 1945, quand dit-il, le couvercle de souffrance et d'angoisse s'envole, choisir la voie tranquille d'une carrière normale, universitaire, à laquelle sa réussite au concours de l'école normale le destinait. Comment, alors qu'il vient de vivre dans la tension épuisante et stimulante de ses années de guerre, immoler, il emploie ce mot, immoler sa vie dans la préparation de l'agrégation, puis dans l'écriture contrainte d'une thèse, réfractaire à ce calvaire d'ennui, dit-il, et trop affamé de la vraie vie, je commençais à dévier dès le début de 1945, j'explosais tel le poisson des grandes profondeurs amené à la surface de la mer. Ce sont des années d'escapade entre 1945 et 1950, durant lesquelles Revel détruit et piétine, selon ses propres termes, sa carrière universitaire. Il ne passera l'agrégation qu'en 1956 à 32 ans. Ce sont des années d'une importance tout aussi capitale que celle de la résistance. Il s'élance avec la même fougue dans cette nouvelle vie, mariage, paternité, fruit de la sincérité et de l'amour, bohème, incertitude, voyage et exploration du monde, Algérie, Égypte, Mexique, bientôt Florence et l'Italie, et surtout découverte des abîmes qui peuvent s'ouvrir en soi lorsqu'il succombe à la fascination d'un gourou, Gurdjieff. Mais de ses voyages, de ses errances, que de profit. Revel s'immerge dans la civilisation mexicaine. Il écrit ses premiers textes d'analyse politique et sociale en révélant la duplicité du parti révolutionnaire institutionnel qui gouverne à Mexico. Après l'oppression de l'idéologie nazie, voici le mensonge, la corruption qui gangrène la démocratie devenue simple paravent d'une autre forme de domination. Il n'oubliera pas, il redoutera pour la France une évolution à la mexicaine. La période Gurdjieff lui a fait mesurer sur son propre cas, dit-il, je cite, « l'aptitude des hommes à se persuader de la vérité de n'importe quelle théorie, de bâtir dans leur tête un attirail justificatif de n'importe quel système, fût-ce le plus extravagant, sans que l'intelligence et la culture puissent entraver cette intoxication idéologique. Le voici armé pour combattre, je cite, « l'envoûtement totalitaire qui peut plonger dans la nuit temporaire ou définitive des esprits supérieurs, aussi bien que des abrutis et des consciences honnêtes, autant que des scélérats. » Revel, qui a rejeté le nazisme, refusé la servitude volontaire, ne succombera pas à la fascination du communisme. Il est immunisé contre la tentation totalitaire. L'essai qu'il publiera sous ce titre en 1976 et qui fera de lui avec Raymond Aron l'un des quelques intellectuels échappant au marxisme prend sa source dans ses expériences personnelles des années 40-50. Sa vie est un exemplaire roman de formation. Il a vécu au Mexique, il vit à Florence, il y devient expert en histoire de l'art et plus tard, il fera connaître les travaux décisifs des historiens étrangers de la peinture ignoré du public français. Il écrit un roman en 1957, Histoire de Flore, son premier livre, mais surtout quatre ouvrages qui, entre 1957 et 1962, marquent d'abord sa rupture avec la philosophie telle qu'elle règne en Sorbonne et à Saint-Germain-des-Prés. Dans Pourquoi des philosophes et la cabale des dévots, il condamne une philosophie soucieuse seulement de ses propres systèmes, coupée de la science et ayant abandonné son territoire propre, la morale et l'art de vivre. Elle ne produit plus que de l'idéologie, je cite, « la funeste invention de la face noire de notre esprit qui a tant coûté à l'espèce humaine ». Avec de tels livres qui obtiennent une vaste audience, on se coupe du milieu philosophique officiel. Et comme avec « Pour l'Italie » et son essai sur Proust, il bouscule à nouveau les idées reçues, il devient la cible de tous les conformistes, de tous les cuistres et de ceux innombrables qui ne supportent pas le succès d'autrui. Il ne lui reste plus qu'à ridiculiser le style du général en 1959 pour apparaître comme un pamphlétaire par qui le scandale arrive. On lui concède le talent du provocateur, mais on le récuse comme philosophe ou même comme intellectuel digne d'être lu et discuté avec sérieux. Revel est bien l'homme de toutes les marges, ayant réussi à imposer sa personnalité, le style et la pensée Revel, mais il est sans illusion sur ce que signifie la célébrité, je cite, « cette indication quantitative et non qualitative, c'est une grandeur, ce n'est pas une valeur, c'est un désir de dupe. » Au vrai, il est différent parce qu'il a échappé en vivant à l'étranger à son milieu culturel d'origine. « Mon regimbement éclectique m'a épargné l'orthodoxie », analyse-t-il. Je ne devins pas le jeune professeur de philosophie modèle, doublé de l'intellectuel parisien typique des années 50, flatté de voir paraître une chronique de sa plume dans les temps modernes et juché avec une béate componction sur les trois colonnes de la vulgate du moment, l'existentialisme, la psychanalyse, le marxisme. Il n'a pas participé à ce qu'il appelle la bigoterie parisienne. « Je tâchais toujours, dit-il, d'écrire mes livres pour moi seul, collés à une source située en moi seul, dans l'état bienheureux d'une apesanteur sociale. » S'il fallait, mesdames et messieurs de l'Académie, une définition de l'écrivain, il me semble que Jean-François Revel vient de nous la donner. « Mais avec le temps, ajoute-t-il, cette innocence me devint de moins en moins accessible. » Il est autour des années 65, un quadragénaire au physique de lutteur, au visage carré, à la nuque épaisse, au regard perçant, est l'un des acteurs majeurs du débat intellectuel et politique. Chroniqueur, éditorialiste, essayiste, éditeur, pamphlétaire, il critique le présidentialisme à la française, regrette la fin de l'opposition au gaullisme. Il occupe même le poste de ministre de la Culture dans le contre-gouvernement constitué par François Mitterrand, qui, au second tour de l'élection présidentielle de 1965, a été le candidat de tous les adversaires du général de Gaulle. Jean-François Revel se tient donc, durant quelques années, à la frontière de l'enfer. On le suspecte d'hérésie, mais il continue d'habiter sur la rive gauche. On ne l'a pas encore damné, il n'a pas été contraint d'abandonner toute espérance. « Lorsque je parcours mes écrits d'avant 1968, dira-t-il, je m'aperçois qu'ils sont parsemés de panneaux de signalisation qui, à côté de positions solidement étayées et auxquelles je souscris aujourd'hui encore, ont pour seul office de crier aux passants « Coucou, je suis de gauche, je suis de gauche ». Mais dès 1970, il change de rive. La publication et le succès de « Ni Marx ni Jésus » marquent sa rupture avec l'anti-américanisme. Les États-Unis sont à ses yeux le pôle démocratique est l'acteur majeur de la transformation mondiale. Il s'écarte ainsi de l'idéologie de la gauche et donc de la bien-pensance intellectuelle, sans regret, puisque Revel constate que ses donneurs de leçons n'ont, je cite, « rien compris à l'enjeu du siècle, à savoir la lutte à mort entre les totalitarismes et la démocratie ». Le voici aux côtés de Raymond Aron, d'Orwell, de David Rousset, de Koestler, de Simon Less, de Boris Souvarine, à nouveau en résistance. Ses livres, ses éditoriaux sont les armes de ce combat. Ils mettent en garde contre la tentation totalitaire, rappellent comment les démocraties finissent, condamnent le programme commun aux socialistes et aux communistes. En 1981, Revel écrit « La grâce de l'État », premier essai après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, à critiquer les orientations du gouvernement, celle-là même que je défendais. Et j'ai été d'autant plus sensible au questionnement majeur de Revel quand il s'interroge sur l'attitude des intellectuels et des artistes face au totalitarisme. Si le fascisme et le communisme, écrit-il, n'avaient séduit que des imbéciles et des canailles, il eût été plus simple de s'en débarrasser. La connaissance n'est-elle pas inutile, se demande-t-il alors, dans un essai de 1988, puisque la réalité du totalitarisme soviétique est connue depuis les années 30, qu'on a décrit la grande terreur et que cependant le communisme continue d'attirer, de fasciner ceux dont la fonction est de connaître, d'analyser, de dire. Or, ce grand mensonge, malgré Solzhenitsyn et les dissidents, est toujours efficace et menaçant. les pacifistes sont à l'ouest et les missiles à l'est, cette phrase qui fait mouche a-t-elle été glissée par Revel à François Mitterrand ? Certains l'affirment. Jean-François Revel occupe ainsi, alors qu'il est directeur de l'Express de 1977 à 1981, puis éditorialiste au Point, un poste de combat en première ligne, constamment exposé. Il ose se proclamer anticommuniste alors qu'il s'agit là de l'un de ces gros mots que la pudeur, la prudence, les complaisances et la complicité ou la naïveté interdisent de prononcer. Revel va plus loin encore. Il dénonce avec éclat, je cite, « l'identité d'essence des trois totalitarismes du XXe siècle, fascisme, nazisme, communisme, auquel il ajoutera bientôt le maoïsme, ce nouvel opium des intellectuels. » Ni Raymond Aron, ni François Furet, ni Simon Lesse, engagés dans la même bataille, n'ont été attaqués avec autant de violence qu'il le fut. Et d'abord, vous, Revel, vous êtes une canaille, lui lancera un secrétaire général du Parti communiste, ne suscitant qu'une réprobation timide des journalistes présents. C'est que Revel brise les tabous, aucune prudence ne retient sa plume, il est de ces hommes qui s'engagent, il l'a montré sous l'occupation, puis il a combattu le colonialisme, a critiqué le gaullisme triomphant, cet absolutisme inefficace jugera-t-il. Comment pourrait-il épargner le communisme, le maoïsme, ses utopies meurtrières ? Il intervient toujours en intellectuel qui accumule les données de fait, mais aussi en polémiste impitoyable qui refuse toutes les connivences et en politique déterminée qui ose dire, écrire, que le secrétaire général du Parti communiste français a travaillé en Allemagne nazie ou que son parti est financé par l'Union soviétique. Cela est contraire aux usages. Pourtant, il le fait, il choque la gauche qui n'a pas rompu avec le communisme pour des raisons idéologiques et électorales. Il est le mal-pensant, il trouble le jeu. Il conçoit même en 1979 le devoir d'ingérence des démocraties dans les régimes dictatoriaux qui, en Afrique, se proclament socialistes. Au terme d'une analyse rigoureuse, il rappelle les grandes famines provoquées par les régimes marxistes africains et avant eux par Staline et Mao, et il ose écrire que le grand affameur du XXe siècle, c'est le socialisme. De tels propos le mettent au banc de la communauté intellectuelle qui régit les bonnes mœurs et préfère divaguer sur les bonheurs de la révolution culturelle chinoise. Jean-François Revel a donc franchi les portes de l'enfer. Les dévots feront silence sur cet écrivain qu'on ne peut prendre en défaut d'information, qui dénonce preuves à l'appui les mensonges et qui publie en même temps une histoire de la philosophie occidentale de Thalès à Kant, son histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l'Antiquité à nos jours, puis qui, échappant à l'actualité politique, dialogue en philosophe avec son fils moine bouddhiste. Mais qui est-il donc, ce Jean-François Revel ? Un écrivain égal au plus grand. Un écrivain français nourri par la sève rabelaisienne et voltairienne. Un lecteur de Saint-Simon et de Montesquieu, de Chateaubriand et de Tocqueville, de Taine, de Montaigne et de Proust. Un humaniste engagé dans les combats contre les totalitarismes qui a toujours défendu la liberté d'expression et affirmé que, je cite, « le seul barrage au fanatisme meurtrier est de vivre dans une société pluraliste où le contrepoids institutionnel d'autres doctrines et d'autres pouvoirs nous empêche toujours d'aller jusqu'au bout des nôtres. » Car au centre de la pensée de Revel, il y a l'idée qu'il faut défendre l'homme de son pire ennemi, l'homme. Ce qui signifie reconnaître que l'homme peut errer, mentir, se mentir, et préférer le mensonge et l'illusion à la vérité, la cruauté à la bonté. Mais faire cet implacable constat ne conduit pas Revel au fatalisme. Il fait le pari que l'homme est libre et que, dès lors, chacun de nous peut choisir entre la face noire et la face claire de son esprit, et cela engage notre responsabilité. Lucidité, liberté, responsabilité, courage, refus du cynisme et de la passivité, bonté, tels sont les piliers de la pensée et du comportement de Revel. Jamais ils ne se dérobent à leurs exigences. Écoutez, mesdames et messieurs de l'Académie, ce que Jean-François Revel nous confie et je ne connais rien de plus émouvant, de plus révélateur de sa sensibilité, de ses vertus. Je cite « Il n'est guère de jour où, à table, dans mon lit, dans la rue, sur la grève, je ne pousse un rauque gémissement de repentir et de honte. C'est que revient me mordre le souvenir d'une bêtise fatale, d'une réaction vulgaire, d'un mensonge dégradant, d'une fanfaronnade ridicule dont je me suis rendu coupable, jadis, naguère ou avant-hier. Ne reconnaissez-vous pas dans ces lignes, extraites du voleur dans la maison vide, ces mémoires publiées en 1997, année où vous l'avez appelé dans votre compagnie, l'écho des confessions, celles de Rousseau, celles de Saint-Augustin, que Jean-François Revel appelait son épiscopal prédécesseur. Car c'est à cette hauteur qu'il faut situer son ambition lorsqu'il écrit ses mémoires, son livre majeur, celui dont tous les autres ne sont que des ingrédients nécessaires, moments d'une vie de combats indispensables et valeureux, témoignages pour l'histoire, mais qui, en définitive, n'existe que pour ce festin en parole qu'est le voleur dans la maison vide. Ce titre a surgi au Népal lors de l'élaboration avec son fils Mathieu Ricard de ce dialogue entre le moine et le philosophe. C'est un intitulé allégorique qui illustre un thème majeur de la doctrine bouddhiste. C'est un titre d'une lucidité poignante qui ne dépeint pas seulement le sentiment de contingence personnelle que Jean-François Revel éprouve au souvenir de ses faits, gestes et pensées après avoir occupé ce, c'est lui qui parle, logement sous-loué qu'on appelle une vie. Il désigne aussi, explique Revel, je cite, le XXe siècle tout entier, où l'humanité est entrée et qu'elle a traversé en l'imaginant remplie de nouvelles richesses matérielles, spirituelles et morales, et dont elle va ressortir sans rien emporter de ce qu'elle espérait y trouver, mais même dépouillée d'une part de ce qu'elle possédait avant de l'aborder. Soit, c'est là l'exacte vérité des choses, telle qu'un historien peut et doit la constater. Le XXe siècle européen est celui de la Shoah. Et cependant, alors même qu'il pense et énonce cela, Revel se laisse emporter par le flux de la narration. Il entre dans la maison vide et la repeuple. Tout récit n'est pas fiction, dit-il, mais tout récit naît de la recomposition imaginaire. Lui qui s'est opposé à son père, qui ne s'est jamais réconcilié avec lui et qui, pourtant, au moment de son décès, pleure dans le fond d'un taxi et se noie dans un égarement de chagrin, se souvient de ses leçons. Joseph, Marie, Théophile, Ricard, industriel et lettré, lui parlaient littérature au temps de l'enfance ensoleillée. Dans la grande villa patricienne de 2 étages et de 23 pièces, dans cette demeure provençale à la face trapue d'une douce modulation d'oranger, d'ocre et de safran, rutilance solaire voilée de cyprès et de magnolia, de platanes et de pins. « Est écrivain !» avait exposé le père à son jeune fils, celui dont on peut affirmer que s'il n'avait pas existé, ce qu'il a dit n'aurait pas existé, ni sa façon de le dire, et même on n'aurait jamais su que cela pût exister. En composant Le voleur dans la maison vide, Jean-François Revel renoue avec le père dont il exauce les vœux. Il a en effet, comme les plus grands, fait exister ce qui sans lui n'aurait pas existé. Alors laissons Jean-François Revel écrire et l'émotion au bord des yeux, lisons les dernières pages du voleur dans la maison vide. Le présent livre ne comporte pas de conclusion puisque, par définition, c'est la fin de ma vie qui sera cette conclusion. Partageons avec lui une certitude. Chacun atteint tôt ou tard le moment de la vie où il se rend compte soudain que demain est arrivé, que plus rien de cardinal ne modifiera désormais l'histoire générale de sa destinée. Et alors, lorsqu'il se retourne, il ne voit, c'est Jean-François Revel qui l'écrit, qu'un peu d'eau sur la terre sèche, elle stagne d'un instant, puis disparaît. Mais il l'écrit, seul à pouvoir le faire ainsi, et dès lors, il devient immortel. C'était l'utopie créatrice de son père, c'est celle de Jean-François Revel. Mesdames et messieurs de l'Académie, je vous remercie de m'avoir permis de le relire, de lui rendre hommage sous cette coupole où, après lui, vous m'avez si généreusement accueilli.
Monsieur, tout le démontre, vous n'ignorez rien des règles que notre compagnie doit au cardinal de Richelieu et auxquelles nous obéissons de notre mieux. Je ne sais si l'on vous a informé. Nous sommes quelques-uns ici à cultiver l'une d'elles avec constance. Elle nous vient de Jacques Chastenet, et Maurice Druon en a transmis l'usage. Pour être accueilli à l'Académie française, il faut démontrer sa notoriété, son talent et sa courtoisie. Les deux premières exigences vont de soi. La troisième ne demande qu'un peu de réflexion. Nous allons fréquenter le nouvel élu pendant des années. Qui oserait vous dénier la notoriété? Le nombre de vos livres et leur tirage font de vous l'un des écrivains les plus célèbres de ce pays. Le talent, il jaillit de toutes vos pages. La courtoisie, il suffit de vous rencontrer un instant pour n'en plus jamais douter. Vous avez été élu, monsieur, au 24e fauteuil de cette académie qui sent les trop nombreux décès qui nous ont accablés ces derniers temps, devrait compter 40 membres. Tel que vous êtes, avide de tout connaître et tout savoir, vous n'avez pas dû tarder à vous pencher sur la liste de vos prédécesseurs. Je présume que le premier regard vous aura laissé réjoui, voire triomphant. Ce n'est pas rien que de succéder à Colbert, à La Fontaine, à Marivaux, au poète Sully Prudhomme, à Henri Poincaré, à Jean-François Revel. Après quoi, fatalement, cette liste, vous l'avez relue. Hélas, vous avez constaté alors que le tout premier nom, au temps de Louis XIII, n'est autre que celui d'un certain Cilon. Que sur cette liste, on trouve un Clérambault qui n'est pas le compositeur, un Massieu, un Pastoret, un Hauteville. Peut-être, alors, vous êtes-vous attristé. Rassurez-vous, nous tous ici avons connu le même sort. Ainsi se présente l'Académie française, Stendhal lui-même, qui, hélas, ne fut pas des nôtres, montre dans le rose et le vert une dame assise dans un dîner à côté, je cite, d'un écrivain peu connu qui, en cette qualité, voulait entrer à l'Académie française. Il me reste à vous découvrir un avantage dont on parle peu. Vous pénétrez en un lieu plus favorable qu'aucun autre à la rencontre d'hommes et de femmes qui, ailleurs, auraient rarement eu l'occasion de se croiser. Nous sommes, les uns et les autres, si différents. Soyons donc avertis. D'ores et déjà, une place vous a été attribuée dans la salle de nos séances. Sachez qu'elle est immuable. Elle ne vous sera ôtée que le jour, assurément lointain, où l'on posera votre épée sur votre cercueil. ne négligez pas ce double voisinage. Il ne dépend pas de vous seul qu'il soit fructueux, mais j'en suis assuré, aucun de vos compagnons ne vous refusera sa sympathie. Le plus réticent ne pourra résister à la vivacité de votre pensée, à la chaleur qui émane de tout votre être, et plus encore, à cette modestie restée identique depuis le temps où je vous ai connu, avant La Baie des Anges, votre premier best-seller, vos succès n'y ont rien changé. Qu'est-ce qu'un roman historique ? Zélateur, vous le savez, d'Alexandre Dumas, je me suis convaincu très vite que, se présentant ouvertement comme tel, le roman historique porte en lui ses lettres de noblesse. De grands auteurs l'ont cultivé et des chefs-d'œuvre en sont nés. En revanche, il faut proclamer que l'histoire romancée, genre hybride et masquée, trompe le lecteur en lui faisant à croire qu'elle est vraiment de l'histoire. C'est d'évidence du roman historique que vous pouvez vous réclamer. Celui-ci remonte à la plus haute antiquité. Notre confrère André Roussin, qui fut mon ami et mon traitant d'esprit, aimait présenter Homère comme l'ancêtre de tous les romanciers historiques. L'Iliade, poème épique, se fonde sur une guerre nullement imaginaire, celle de Troie. Ne peut-on pas dire, et ici je cite Roussin, que Homère prit avec l'époque d'Agamemnon et de Priam autant de liberté, sinon plus, qu'Alexandre Dumas avec celle de Louis XIII et de Buckingham. Il n'est pas absurde de penser, ajoutait-il, que dans une mythologie guère différente, le vaillant, l'invincible d'Artagnan est un lointain descendant au talon près du vaillant et invincible Achille. J'ai trop longtemps méconnu que le premier roman historique indiscuté fut celui d'Alexandre le Grand, écrit à Alexandrie en grec au IIe siècle de notre ère. Dans cette histoire fabuleuse du plus illustre des conquérants, déjà l'imaginaire se glissait au sein du réel. Traduit plus tard en latin, puis en roman, c'est le cas de le dire, les poètes du XIIIe siècle, en l'adaptant à leur tour, se sont servis pour la première fois de vers de 12 pieds, ainsi naquirent les Alexandres. Qui douterait que l'Écossais Walter Scott soit le premier romancier historique des temps modernes ? À partir de 1814, on lui doit un nombre prodigieux d'ouvrages. Lequel d'entre nous oublierait Ivanhoé ou Quentin Durward? Quand j'étais enfant, je disais Quentin Durward. Ces livres lui ont procuré une gloire universelle quand le jeune Alexandre Dumas, alors troisième clerc chez un notaire de Villers-Cotterêts, eut l'audace, muni seulement d'une pièce de 20 francs, de partir pour Paris afin de chercher la gloire au travers de la littérature. La seule porte qui se soit ouverte à lui fut celle d'un bureau au Palais Royal. Constatant sa belle écriture, on l'avait engagé comme copiste. D'où ce mot, spécifiquement dumasien, « Je vais vivre de mon écriture, un jour je vivrai de ma plume ». Les Français lisaient depuis longtemps les traductions de Walter Scott. Telle est la raison sans doute pour laquelle un des collègues de bureau du jeune Dumas s'écria devant lui « La France attend le roman historique ». Reconnaissons-le, la boutade n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Non seulement les Français ont toujours apprécié ce genre littéraire, mais la connaissance de l'histoire en France lui doit beaucoup. Si l'époque de Louis XIII et de Louis XIV est familière à nos contemporains, c'est évidemment qu'ils l'ont découverte dans Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne. Le Moyen-Âge a cessé de leur être impénétrable depuis qu'ils ont lu Les Rois maudits de notre confrère Maurice Ruon. Votre œuvre entière, monsieur, a rendu clair bien d'autres périodes de notre histoire. Le mieux ici est de vous écouter. Mon projet, écrivez-vous, est de rendre vivante une personnalité. Tout en étant respectueux des apports de la recherche historique, je fais en sorte, par l'écriture, par la composition du récit, que le lecteur, peu à peu, pénètre tous ses aspects. Qu'il acquiert ainsi de son sujet une connaissance presque charnelle, ainsi que l'intelligence d'une période historique. Tout est dit. À la façon de Zola pour les Rougon-Macquart, vous avez précédé le premier volume, de La Baie des Anges d'un tableau généalogique. Ainsi est-il possible de se retrouver parmi les membres abondants de la famille Revelli. À l'origine, trois frères venus du Piémont, Carlo, 28 ans, Vincent, 20 ans, Luigi, fils tardif, 10 ans. Pour fuir le chômage, il quitte l'Italie en 1888. De Mondovì à Nice, il voyage naturellement à pied. Il venait de là-bas, écrivez-vous, le pays de la montagne. Il marchait au milieu de la route, la veste rejetée sur l'épaule, cachant la musette de toile, les manches de la chemise blanche retroussées à mi-bras. Il regardait loin devant, au-delà des broussailles, des arbres secs, des pentes de galets soudées par la terre jaune, suivant des yeux la crête vers laquelle montait le chemin et qui fermait l'horizon comme un mur de clôture hérissé de tessons. De telles lignes permettent de déceler, dès vos débuts de romancier, votre don des images fortes et des sentiments qui en découlent. La Baie des Anges est un superbe roman. Qu'ont de commun les Gallos avec les Revelli? Les uns et les autres sont des immigrés italiens. Les frères Gallo, tous trois tailleurs de pierre, rejoignent Nice, comme les Revelli, dans les dernières années du XIXe siècle. L'un d'eux est votre grand-père. Votre mère, vous l'avez beaucoup occupée. Écoutez votre mère. Votre mère répétait que les siens avaient travaillé depuis qu'ils avaient su se tenir debout. Elle ajoutait, c'était des bêtes de somme, des gens comme eux, qu'est-ce qu'ils avaient à vendre? Leur force. À Nice, votre grand-père fut de ceux, au milieu de quelques dizaines d'autres, qui se campaient au petit matin place Garibaldi, dans l'espoir qu'un patron, passant parmi eux, arrête son choix, désigne les plus vigoureux, dicte son prix, comme du bétail, ponctuait votre mère. Pour vous percer un jour, j'affirme que lire l'histoire de Joseph Gallo, votre père, s'impose. Tous les siens l'appelaient J. Cela s'écrivait J-E accent aigu, mais se prononçait J. Vous lui avez rendu le plus bel hommage qu'un fils puisse adresser à son père. Non seulement vous avez écrit l'histoire de sa vie, mais à celle-ci, vous avez donné un titre révélateur, J, histoire modeste et héroïque d'un homme qui croyait au lendemain qui chante. À 11 ans, le fils d'immigré obtient, premier de sa classe, son certificat d'études son instituteur qu'il vénère, aurait bien aimé le pousser, comme on disait. Il y a renoncé. De quelle façon, en ce temps-là, convaincre un ouvrier de se priver d'un salaire attendu? Apprenti chez un plombier, Jay devient le gosse à tout faire, qui, bousculé, injurié du matin au soir, apprend le métier à coups de pied dans le derrière. 2 ans plus tard, toujours apprenti, il entre chez un électricien. Il s'y trouve bien. En 5 ans, il en sait plus que ses compagnons plus anciens et frappe son patron par sa rapidité d'exécution. Ce n'est que par instinct. Il le sait. Il s'en hérite. Il économise pour acheter un manuel pratique du monteur électricien par Lafargue et Jumeau, un monument de 1066 pages. Vous le possédez toujours, monsieur. Joseph Gallo sympathise avec un ouvrier de 30 ans, un certain Dufourcq, qui, lui, a suivi des cours d'électricité. Frappé par tant de précocité, Dufourcq lui propose une association. L'équipe ne tarde pas à être connue. Les entreprises l'engagent volontiers. Ainsi, votre père a-t-il participé à l'électrification des grands hôtels de la promenade des Anglais. Il découvre ce qu'il a toujours ignoré, le luxe, et même un luxe qui éclabousse. Comment ne pas comparer le train de vie des princes russes, des lords anglais et des millionnaires français avec l'existence des gens qu'il côtoie depuis qu'il est né? Ce constat, Dufourcq l'a fait, lui, depuis longtemps. Il explique à Jay ce qu'est la lutte des classes, il lui prête des livres et à la fin lui fait lire Marx. Du coup, Jay adhère au Parti socialiste qui, à l'époque, est révolutionnaire. Sur la page de garde du fameux manuel pratique du moteur, du monteur électricien, il inscrit de sa sage écriture apprise à l'école communale, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. En 1914, Jay est mobilisé dans la marine de guerre. Ils m'ont pris plus de 6 ans de vie, se plaindra-t-il lors de sa démobilisation, car 6 mois après l'armistice, son bateau naviguait toujours. À l'instar des mutins de la mer Noire, l'équipage était prêt à s'insurger, il fallait à sa fureur un porte-parole, ce fut Dieu. Il a dû remplir sa mission avec vigueur, puisqu'on le jugera et condamnera à une peine devenue légère parce que la guerre était heureusement finie. Redevenu civil, il retrouve avec passion sa chère électricité, agrandit son entreprise, mais n'oublie rien. En 1920, après la scission de Tours, il adhère au Parti communiste. Il s'est choisi une épouse italienne, originaire de la région de Parme. Vous naissez, monsieur, en 1932, d'un père communiste et d'une mère qui, pas un instant, aurait imaginé que le baptême ne vous fût pas administré. C'est donc maintenant de vous seul, monsieur, que nous allons nous entretenir. À l'école primaire, on vous reconnaît des facilités. Le lycée vous attend. Jay vous interroge. As-tu une idée de ce que tu veux faire plus tard? Oui. Et quoi donc? Officier mécanicien dans la marine. Profonde réflexion de votre père, suivie d'une décision dont on ne peut contester l'extrême logique. Je t'inscris dans un collège technique. Vous allez donc découvrir en même temps des professeurs et des machines. Cela ne vous suffit pas. Dès l'âge de 15 ans, inspiré par Dumas et Ming-Mui, ou Jack London, vous ne cessez d'écrire des romans dont, bien sûr, rien ne subsiste. Même à 16 ans, vous rédigez pour vous-même un essai sur ce thème audacieux, De Gaulle égale-t-il Bonaparte ? Vous passez victorieusement votre bac mathématiques et techniques. Depuis longtemps, vous ne pensez plus à la marine. Votre père est toujours communiste. Vous l'êtes devenu vous-même. La radio recrute des techniciens. Si vous vous présentez au concours, est-ce parce que l'on y traite, à la radio, parfois de littérature ? Vous êtes reçu. Vous vous réjouissez de ne pas quitter Nice, mais en 1951, l'avancement fait de vous un contrôleur des installations de la télévision. Il vous faut donc devenir parisien. La télévision vous séduit. Vos supérieurs vous prédisent un brillant avenir. Quelle sera leur déception quand, moins de 3 ans plus tard, vous démissionnez ? Il est clair que vous vous sentiez gêné aux entournures. Seul vous habitez la littérature et l'histoire. Vous auriez pu, à l'instant, vous installer à votre table et sans tarder vous mettre à écrire. L'idée ne semble pas vous avoir caressé. Selon vous, pour écrire, il faut recevoir une formation littéraire reconnue. Vous vous inscrivez donc à la Sorbonne. Vous interdisant de demander de l'argent à votre père, vous vous faites engager comme maître auxiliaire dans un lycée. Une licence en histoire ne vous suffit pas. Vos professeurs sont désormais Ernest Labrousse, Pierre Renouvin ou Raoul Girardet. Vous passez aisément l'agrégation d'histoire. Ce qui, jaloux de vos succès, surtout jaloux de vos succès, ont exprimé des doutes sur le sérieux de vos connaissances, ferait bien de s'en souvenir. Nommé à 28 ans professeur au lycée Masséna de Nice, vous retrouvez avec bonheur votre ville natale et un jet vieilli dont la vieillesse n'a pas effacé la soif de savoir, au point que votre frère et vous l'abonnez au journal Le Monde. Il le lit chaque jour intégralement. Chaque fois que vous lui rendez visite, il commente l'actualité en posant la même question. « Tu as vu ça ? » Est-il toujours communiste ? Les atrocités staliniennes dénoncées par Khrouchtchev l'ont gravement touché. Comment croire encore au lendemain qui chante ? Il ne veut pas pour autant renoncer à l'espoir. Et vous ? Et vous, à 24 ans, vous le quittez, ce parti. Vous vous êtes expliqué. Je ne suis pas entré au Parti communiste comme un fils de bourgeois qui a des complexes de classe, mais comme fils d'ouvrier confronté à des inégalités insupportables. Le jour est venu où j'ai trouvé absurde, le mot est de vous, absurde de rester communiste. Nommé en 1965 maître assistant à la faculté des lettres de Nice, vous demeurez clairement un homme de gauche. Dès l'enfance, vous avez ressenti pour Mussolini et son régime une antipathie instinctive. Cette réalité vous pèse à ce point qu'elle devient le sujet de votre thèse, contribution à l'étude des méthodes et des résultats de la propagande fasciste dans l'immédiate avant-guerre. Lisant indistinctement le français et l'italien, vous vous êtes informé à la source. Vous en savez bien davantage que la plupart des Français. Pourquoi ne pas consacrer un livre, votre premier, à un tel sujet ? Ce fut l'Italie de Mussolini. Rien de commun avec ce que vous écrirez plus tard. J'y vois l'œuvre d'un universitaire, avide d'utiliser ses sources et qui, les faisant parler, prend soin d'affirmer son impartialité. Vous montrez clairement la mascarade initiale muée en tragédie. Les fascistes ne se contentent pas de faire boire de l'huile des ruissins à leurs adversaires. Ils tuent beaucoup. J'admire le calme immense avec lequel vous nous faites trembler. Prenons-y garde. De temps à autre, la mise en valeur d'une situation, la peinture aiguë d'un personnage tel que Mussolini, déversant des torrents sonores du haut du balcon de la place de Venise, cela et bien d'autres choses font naître un suspense qui, d'évidence, annonce le genre et le style que nous apprécions en vous. Ce qui frappe, c'est que durant plusieurs années, vos livres restent de la pure histoire. En 1967, l'affaire d'Éthiopie. En 1969, histoire de l'Espagne franquiste. En 1970, cinquième colonne. En 1971, tombeau pour la Commune et la nuit des longs couteaux. Déjà, le rythme se précipite. Un essai publié en 1968 montre de votre part un intérêt accru pour la vie politique, le titre « Gauchisme, réformisme et révolution ». Quand G. mourra le 16 mars 1986, à 93 ans, il aura pu lire 28 de vos livres. Vous le montrez à l'hôpital, je vous cite, son bras droit, maigre, blanc, les veines trouées par les piqûres de perfusion pendant le long du lit. Les doigts étaient repliés comme s'il avait voulu mourir, le poing fermé. Après avoir embrassé son visage exsangue, vous vous souvenez d'avoir saisi ce poignet et découvert, tatoué sur la face intérieure de l'avant-bras, une encre de marine portant dans l'anse deux dates, 1914 et 1917. Au-dessous, cette inscription, presque effacée, « Vive la Révolution ». Je vous cite encore, monsieur. J'ai placé le bras sous le drap et suis allé marcher dans le parc de l'hôpital, mon poing dans la bouche pour ne pas hurler. Nourri dans la noble science de l'histoire, pourquoi avez-vous tout à coup ressenti le besoin, voire la nécessité de vous consacrer au roman historique? Pour le comprendre, il faut se souvenir que les auteurs préférés de votre enfance étaient des romanciers. Ne pas oublier non plus que votre premier roman, Le cortège des vainqueurs, est pétri d'histoire. Et voilà, excusez-moi, c'est collé, je ne le ferai plus. Et que les 14 suivants sont tous historiques. Nous découvrons en même temps cette puissance de travail démesurée dont peut-être vous ne soupçonniez pas la réalité. Le premier volume de la Baie des Anges apparut en 1975, le deuxième et le troisième dans la seule année 1976. Chacun de ces deux derniers tomes est un livre épais, mêlant des dizaines de personnages et des situations multiples, allant de la fin du XIXe siècle jusqu'à notre guerre d'Algérie. Qui pourrait, comme vous, avec un talent qui ne se dément jamais, démêler tant de fils et soutenir autant de destins en l'espace de deux années? Vous ne vous en cachez pas, au contraire, à la dernière page du dernier tome, Je lis cette précision que certains ont peut-être prise pour un aveu naïf, mais qui vient du plus profond de votre sincérité. Vous y énoncez le lieu Paris et la date 1975 à laquelle vous avez commencé. Ensuite vient le lieu Spéracèdes et la date 1976 à laquelle vous avez achevé. Vous êtes redevenu parisien. On vous propose une chaire à l'université de Vincennes, mais vous êtes là des universités. Vous préférez devenir maître de conférence à l'Institut d'études politiques, autrement dit Sciences Po, ce qui n'affaiblit en rien le rythme de vos publications, des livres, bien sûr, mais aussi des articles. Collaborateur de l'Express, vous y rencontrez Jean-François Revel. Je n'y reviendrai pas puisque, sur ce sujet, vous nous avez tout dit. Vous tenez la rubrique « Essais et documents » pendant une dizaine d'années. Revel s'est embrouillé avec l'Express. Vous quittez l'hebdomadaire en même temps que lui. François Dufay a vu en vous un homme fleuve, comme on dit un roman fleuve. Seul Dumas a écrit davantage, mais il requérait souvent l'aide de Macquet. Vous êtes tout seul, Max Gallo. Vous vous levez à 4 heures du matin et travaillez tant que l'inspiration vous soutient. Il est rare que l'une de vos histoires tienne en un seul volume. Il vous en faut au moins 2 et souvent 3. Cela ne vous a pas suffi, vous êtes passé à ce que vous appelez des suites romanesques. Livres différents, mais se situant tous dans le même contexte historique. Y entre « Les hommes naissent tous le même jour », 2 volumes, « La machinerie humaine », 10 volumes, « Bleu, blanc, rouge », 3 volumes, « Les patriotes », 4 volumes, « Les chrétiens », 3 volumes, « Mort pour la France », 3 volumes, « L'Empire », 3 volumes, « La croix de l'Occident », 2 volumes, « Les Romains », 5 volumes. Marcel Thiébaut, qui fut directeur de la Revue de Paris, me disait un jour « Il y a ceux qui publient beaucoup et mal, ceux qui publient peu et bien, rares ceux qui publient beaucoup et bien. » Vous en êtes, monsieur. Dans vos romans historiques, l'invention ne trahit jamais la vérité et même parfois ajoute à nos connaissances. J'ai entre autres apprécié votre suite intitulée « La croix de l'Occident ». Le thème se situe en ce XVIe siècle dont Agrippa d'Aubigné disait que les enfants avaient Satan pour nourrice. En français égocentrique que nous sommes, nous ne voulons y voir que nos guerres de religion, le massacre de Vassy, les Guises catholiques et les Bourbons protestants, des assassinats en cascade, Coligny, le duc de Guise, Henri III et en apothéose, la Saint-Barthélemy. Il vous suffit, au début du premier volume, de décrire la bataille de Lépante, en quels termes, avec quelles images, pour nous convaincre de notre erreur. L'événement majeur du XVIe siècle, c'est le moment où s'affrontent la flotte du sultan turc et celle de la Sainte Ligue chrétienne. François Ier étant l'allié du sultan, la France n'est pas à Lépante. Vous mettez en scène des chevaliers français qui, se battant pour leur foi, sont contraints de rompre avec le roi de France et d'affronter l'infidèle aux côtés d'Espagnols, de Génois et de chevaliers de Malte. Le Turc règne sur l'Afrique du Nord, où s'entassent les chrétiens réduits en esclavage. D'autres chrétiens rament sur les galères du sultan. Le chef de la marine turque est un chrétien converti à l'islam. C'est infiniment moins simple que nous l'avons cru. Vous nous jetez au plein de deux croyances, mais aussi et surtout de deux civilisations. Vous nous coupez le souffle, monsieur. Vous fuyez la monotonie. À plusieurs reprises, vous vous êtes éloigné du roman historique pour revenir à la biographie. Formé comme plusieurs générations d'étudiants à l'école de Mathiez, j'ai voué à Robespierre un véritable culte dont je conserve plus que des bribes. Votre Robespierre, histoire d'une solitude, aurait pu me choquer. Bien au contraire. Garibaldi m'avait toujours fasciné. En vous lisant, j'ai cru l'avoir croisé dans son île en votre compagnie. Votre Grand Jaurès, votre Jules Vallès, votre Rosa Luxembourg sont des livres de plein pied avec l'espoir que leur titre a pu susciter. Jugeant que vous ne pouvez enfermer certains personnages géants dans les 300 ou 400 pages d'une biographie classique, vous élargissez votre territoire. Ainsi, en 1997, nous donnez-vous un Napoléon en 4 volumes. Nous avons droit au Chant du départ, suivi du Soleil d'Austerlitz, lequel est tenaillé par l'Empereur des rois et aboutit bien sûr à l'Immortel de Sainte-Hélène. 800 000 exemplaires vendus. Toute la France s'en est entretenue. Avez-vous lu le Napoléon de Gallo ? Entre Napoléon et les Français, il existe des affinités peu niables. Mais quand vous passez par là, monsieur, vos lecteurs se muent en fils adoptif de l'empereur. À peine avez-vous conduit Napoléon au tombeau et vous cherchez à mettre en scène un héros qui soit à sa mesure. Vous le trouvez sans mal, c'est De Gaulle. Les dates de publication parlent d'elles-mêmes. Le dernier tome de Napoléon paraît en 1997 et c'est en 1998 que le premier volume de De Gaulle est en librairie. Qui va pouvoir prendre le relais ? Victor Hugo, bien sûr. Premier des poètes français, le perfide hélas d'André Gide est oublié, monstre sacré, détenteur d'un record inégalé, celui des rues de France à son nom, il a droit à 2 tomes qui sont écrits et publiés en une seule année. Vous ne dissimulez nullement que vous chérissez les grands hommes. Parler des grands hommes, dites-vous, c'est toujours parler de la nation. La vie, dans ses aspects les plus quotidiens, nous force périodiquement à définir notre origine. Il y a les questionnaires, nationalité. Nous répondons, si nous sommes français, français. En ce qui vous concerne, vous devriez écrire profondément français. À la France s'attachent toutes les fibres de votre corps, toutes les vibrations de votre esprit. Vous lui avez consacré des livres entiers, comme si la France méritait elle aussi une biographie. Fier d'être français, l'âme de la France et même l'amour de la France expliqué à mon fils. Faut-il voir dans cette passion un nationalisme exacerbé ? Nullement. Ceux qui voudraient mettre en danger la démocratie vous font horreur. Il y a des pays comme vous n'aimerez jamais, d'autres qui ont votre sympathie, parfois votre amitié, mais votre amour unique, c'est la France. À ceux qui vous comprennent mal, vous avez répondu, avec un sourire d'ailleurs, il faut bien que quelqu'un monte sur le ring et dise Je suis fier d'être français. Vous y êtes monté. L'un de mes amis aimait la France au point d'estimer que ses frontières étaient providentielles. Il n'en démordait pas, et si je tentais de le détromper, il se fâchait. Grand réalisateur de télévision, cet ami s'appelait Stelio Lorenzi. Il était fils d'un immigré chassé d'Italie par le fascisme. À une époque où le débat sur l'immigration prend la place que nous savons, faudrait-il admettre que ce phénomène, dans certains cas, soit à l'origine d'un amour plus absolu que les autres? Tant de succès ont fait de vous le familier des plateaux de télévision. Bernard Pivot reconnaît aujourd'hui que vous détenez, à égalité avec notre confrère Jean d'Ormesson, le record de participation à ces émissions. C'est sur le plateau d'Apostrophe que, vers la fin des années 1970, vous avez croisé François Mitterrand. Faut-il situer ici le début d'une carrière politique? En 1981, le même Mitterrand est élu président de la République. Les socialistes niçois cherchent un candidat qui puisse, de son piédestal, faire tomber Jacques Médecin, député maire depuis des décennies. À Nice, la baie des Anges a fait de vous quasiment un demi-dieu. Vous seul pouvez chasser le despote. On entreprend votre siège. Vous répondez en vous inscrivant au Parti socialiste. À Nice, votre campagne est restée dans les mémoires. Jean-Pierre Chevènement vous écoute et vous reconnaît, je cite, comme l'un des plus remarquables orateurs de notre époque. Du coffre, dit-il, de l'inspiration de la culture. Vous n'écrivez jamais vos discours, à l'exception bien sûr que celui que nous venons d'entendre, et vous avouez parler, faire un vrai discours, prendre une salle, la maîtriser, faire en sorte que pas une tête bouge. C'est un plus grand plaisir que d'écrire parce qu'on y ajoute le plaisir physique. Aisément. Vous êtes élu député des Alpes-Maritimes. Vos fidèles ont attendu la suite. Elle est venue, moins de 2 ans plus tard. François Mitterrand, remarquable expert, entre autres, en relations publiques, vous appelle à rejoindre le gouvernement de Pierre Mauroy en tant que secrétaire d'État et porte-parole. Vous choisissez pour directeur de cabinet quelqu'un qui a besoin de se faire connaître, François Hollande. Ainsi découvrez-vous, autrement que par les livres, les pièges internes du pouvoir. Il n'est jamais mauvais pour un historien de les étudier de l'intérieur. Vous avez fait rapidement le tour de ces dédales. Vos responsabilités ministérielles vous empêchaient d'écrire. Vous n'avez plus longtemps le supporter. En 1984, vous quittez le gouvernement. Vous acceptez néanmoins un mandat de député européen que vous exercerez pendant 10 ans. Quand vous avez fait campagne pour le non à l'Europe, qui a songé à le rappeler ? Entre-temps, vous quittez le Parti socialiste pour fonder, avec M. Chevènement, le Mouvement des citoyens, dont vous devenez même, en 1992, le président. Toujours député européen, vous voici souverainiste. En 2005, vous voterez non au référendum sur la Constitution européenne. Ce non de votre part et le oui de la mienne entraîne entre nous un léger froid, le seul effort court qui n'a en rien nui à notre amitié. 2 ans plus tard, la télévision vous montrera à la cascade du Bois de Boulogne, auprès de notre nouveau président de la République, à peine élu. Dans un très beau discours, vous célébrerez les 35 jeunes résistants qui, le 16 août 1944, ont été fusillés là. Je ne trouve pas négligeable trois lignes qui ont accompagné la publication de votre dernier livre, ce Louis XIV, publié à l'automne dernier. Je cite « Max Gallo n'exerce plus de fonction publique depuis plusieurs années et se consacre tout entier à l'écriture. Seules les personnes éloignées du monde littéraire attribueront cette phrase à l'éditeur. » L'un de nos confrères n'avait pas voté pour vous. Quelque temps après votre élection, il a confié être finalement satisfait que vous nous ayez rejoints. La raison qu'il a fournie n'est étrange qu'au premier abord. Je cite « L'élection de Gallo a enrichi la conversation nationale. » Il faut une explication de texte. Les médias ont abondamment commenté cette élection et ont insisté souvent sur votre évolution politique. La franchise étant l'un des traits de votre caractère, vous n'avez pas songé à la dissimuler. Nous nous sommes vus, quant à nous, entraînés dans les débats plus souriants que déplaisants qui en ont découlé. En suivant à la trace votre parcours, je me suis convaincu, quant à moi, que cette évolution n'a rien contenu jamais que l'on pût qualifier de politicien. J'avais lu et relu Jean-François Revel et m'étais émerveillé de son intelligence. Je dois à l'Académie de l'avoir rencontré et d'avoir mieux discerné sa finesse et, disons le mot, son charme. Au fait, n'a-t-il pas évolué lui aussi ? D'abord rédacteur des pages littéraires à France Observateur, publication fortement ancrée à gauche, il achève sa carrière de journaliste à l'hebdomadaire Le Point, qui, sans être à la droite de la droite, est loin d'être à gauche. Clémenceau, d'abord blanquiste, on le rappelle rarement, n'a-t-il pas, en tant que président du Conseil, brisé des grèves et plus tard, en proclamant superbement « Je fais la guerre », ne l'a-t-il pas gagné ? Adolescent, Victor Hugo ne jurait que par le roi et jeune poète mettait en vers le sacre de Charles X. N'a-t-il pas fini idolâtré par toutes les gauches dont il était devenu le chantre ? L'évolution des idées politiques n'est-elle pas avant tout un signe de liberté d'esprit ? Êtes-vous pour autant une personnalité parisienne ? Ce n'est pas votre genre. On ne peut mener à bien une œuvre comme la vôtre et dîner tous les soirs en ville. Vous êtes marié, vous avez eu deux enfants, Anne et David. Notre vote, vous avez fait nôtre depuis trois jours. Lorsque vous rencontrant de nouveau, je vous ai trouvé radieux. Je me suis dit, la joie de l'élection perdure. Alors vous vous êtes écrié, mon fils vient d'obtenir l'agrégation d'histoire. Tel père, tel fils. Dans les années 70 ou 80, voyant dépérir les vieilles religions, et plus particulièrement la catholique, vos doutes ont pris le dessus. Pouvait-on leur concevoir un avenir ? Vous souhaitiez avec certains que la religion fût ensevelie sous ses compromissions, je vous cite, avec les pouvoirs. Quand quelqu'un parlait devant vous de la prophétie de Malraux, qu'il n'a jamais prononcée d'ailleurs, selon laquelle le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas, vous vous moquiez. Or, vous avez traversé une tragédie familiale. Votre fille aînée, Anne, s'est donnée la mort. Elle avait 16 ans. Il n'est pas de jour, vous me l'avez confié, sans que cette brûlure vous déchire. Anne n'était pas sortie intacte de mai 68. Elle se cherchait, s'égarait. À l'annonce de cette mort, vous vous êtes précipité dans l'église Saint-Sulpice, la plus proche de chez vous. Vous avez récité les prières de votre enfance que vous aviez cru oublier. Elle me revenait en mémoire, dites-vous, comme les seules paroles capables, non pas d'atténuer la douleur, mais de me faire accepter ce qui m'apparaissait inconcevable. Une pensée de saint Augustin a plus tard ouvert la voie à une ultime évolution. Vous aviez souhaité l'inscrire en épigraphe de l'un de vos livres avant d'y renoncer. Cette pensée, la voici. La terre porte les humains comme des feuilles. Elle est pleine d'hommes qui se succèdent. Les uns poussent tandis que d'autres meurent. Cet arbre-là non plus ne dépouille jamais son vert manteau. Regarde dessous. Tu marches sur un tapis de feuilles mortes. Lors du baptême du fils d'un ami cher, vous n'avez manqué aucun des gestes de l'officiant. Quand il vous a vu presque seul rester dans la nef, cet officiant, le père V, l'initial suffit, est venu s'asseoir auprès de vous. Vous avez parlé tous deux jusqu'à la nuit. Ce ne fut pas une confession, dites-vous, aujourd'hui. Le père V avait lu vos derniers livres et y avait repéré des phrases et même, disait-il, des vides entre les mots. Selon lui, il était temps que vous renouiez les fils. Il s'est levé, vous vous êtes levé, vous êtes sortis tous deux de l'église, vous vous êtes arrêtés en haut des marches. Le père V s'est une dernière fois tourné vers vous. N'oubliez pas, saint Bernard a dit, ce n'est pas dans la connaissance qu'est le fruit, c'est dans l'art de le saisir. Quelques jours plus tard, vous avez commencé à écrire votre suite sur les chrétiens. Pour vous avoir connu depuis longtemps, monsieur, je suis en droit d'affirmer à mes confrères que vous êtes le plus tolérant des hommes. C'est à ce titre aussi que je salue votre venue parmi nous. Nous sommes ici une compagnie qui, se nourrissant de ces dissemblances, ne peut vivre qu'en liberté. Alors, vive la liberté, monsieur.
Vous venez d'entendre le discours de réception de Max Gallo de l'Académie française et le discours d'Alain Decaux de l'Académie française sous la coupole de l'Institut de France le 31 janvier 2008.